On va parler du plus grand athlète de tous les temps. Il y a des débats, évidemment, qui sont bien le fun à faire depuis dimanche soir. On en entend un peu partout. Et j'en ai entendu un en 98.5 avec Ray Lalonde et Philippe Quentin, deux gars que j'aime beaucoup, 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 commenter un peu et se poser la question, c'est qui le plus grand athlète de tous les temps? Évidemment, le nom de Tom Brady revient souvent dans les discussions et avec raison. Et quoi qu'il en soit, ben, j'ai décidé de continuer le débat avec un homme, un gars que j'aime beaucoup, puis ses opinions sur pas mal tous les sports, puis l'histoire du sport et ainsi de suite. C'est François Paquette. Salut François!
Salut Danny, ça va bien?
Ça va bien, ça va bien. François, effectivement, j'ai entendu ce débat-là au 98.5 lundi soir avec Philippe Quentin et Ray Lalonde, puis évidemment, on se pose la question, est-ce que Tom Brady est le plus grand athlète de tous les temps? Et moi, dans ma tête à moi, il n'y a pas de doute, à raison de son âge, 43 ans, performer à un tel niveau, c'est incroyable. T'as eu Nolan Ryan qui a lancé un match de 100 points de couture à 44 ans. T'as eu Gordie Howe qui a fait un match des étoiles à 50 ans. Sauf que l'impact de Brady est encore plus grand que ces deux-là. Là. Et là, Ray Lalonde et Philippe Quentin ont commencé à dire que faut pas dire que Tom Brady est plus grand parce que le football américain n'est pas le sport le plus pratiqué dans le monde. Toi, comment tu vois ça?
Évidemment, souvent, c'est une question où il y a multiples réponses.
Puis il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse.
Exactement. Ben, tu sais, moi, à la base, quand je me suis posé la question, je vais faire un peu de recherche. Le nom qui revient le plus souvent, parce qu'on parle d'athlète, c'est celui de Bo Jackson. Dans le sens où pas les performances, mais l'athlète pur, là, le gars qui a été au match des étoiles dans la NFL, au match des étoiles dans le baseball majeur. S'il n'avait pas été blessé, on en parlerait de façon autre. Mais en regardant tu sais, puis tous les noms qu'on connaît, que ce soit Tiger Woods, Roger Federer, Wayne Gretzky, Tom Brady, puis je m'en cache pas, Danny, je suis un fan des Patriots depuis 25 ans, donc je suis un fan de Tom Brady. Mais pour moi, dans tous les athlètes professionnels que j'ai vu jouer, parce que je veux pas remonter à des athlètes que j'ai pas vus, pour moi, c'est Michael Jordan.
Ah oui,
Et je
même
veux
avant
t'expliquer
de...
en...
Même... Ouais, OK.
Je vais te dire ma grande réflexion là, dans le cas de Jordan. Fait qu'il faut jamais oublier une chose. Tom Brady a évidemment joué beaucoup plus longtemps que Michael Jordan sur la période de temps. Ça, c'est sûr et certain. Jordan est allé 6 fois en finale. Il a gagné 6 fois et il a été 6 fois le joueur par excellence. Et je veux dire, les Bulls allaient nulle part sans Michael Jordan. Il est parti pendant 2 ans pour aller jouer au baseball. À 30 ans, il s'en va jouer au baseball au niveau 2A. C'est pas loin du baseball majeur. Il a frappé pour plus de 200, 50 points produits, 30 buts volés. Et n'eût été de la grève de 94, il y a bien des gens qui pensent qu'il aurait pu monter un pas ou deux encore. Tu sais, moi, je mets tout ça, évidemment, c'est un long débat, puis tu regardes les chiffres de Gretzky, Federer, Woods, Brady, mais pour moi, Michael Jordan, c'était le summum, le gars qui pouvait mener une équipe à lui tout seul. La seule chose que je suis pas d'accord dans le cas de Tom Brady, c'est que sur ses 7 Super Bowls, il y a eu 5 fois le joueur par excellence, puis honnêtement, il y a au moins 2 fois où c'est pas lui qui aurait dû le mériter. Il l'a eu dans le dernier Super Bowl dimanche, évidemment, parce que tu peux pas lui donner la défensive complète des Bucks. Il a quand même joué un très, très bon match. Là, ça, je lui enlève pas. Mais il y a 2 fois où il l'a eu, où je pense que c'était un petit peu par défaut. Donc ça, je pense aussi qu'il faut dire que oui, il a gagné 7 fois le Super Bowl, mais je pense que 3 fois, il méritait d'être le joueur par excellence et non pas 5. Et Jordan, lui, les 6 fois où il a été en finale, ça a été le joueur par excellence.
Et aussi, t'as pas le Jordan, la NBA. La NBA est devenue le sport mondial en raison de deux gars. Ben, Jordan et David Stern. Jordan a
Oui,
profité de
oui.
David Stern a profité de Jordan parce que c'est un as dans le marketing, David Stern. Et il a propulsé la NBA. Et c'est lui qui a eu l'idée d'avoir le Dream Team aussi. T'sais, c'est tout David Stern, ça.
Oui. Et puis ça, Danny, c'est un très, très, très bon point parce que ça m'amène un peu à, et puis peut-être que dans 5 ans, si on se reparle, j'aurai pas la même discussion, mais je pense sincèrement que si tu as vu le documentaire de Last Dance qui a été fait pour Michael Jordan, je pense que ça a une influence aussi dans ma décision parce que ce que tu viens de mentionner, le Dream Team en 92 à Barcelone, la sortie des Bulls en Europe, on avait joué des matchs préparatoires. C'est là qu'on s'était rendu compte de l'impact de Jordan et de sa popularité. Il n'y a personne, personne, personne dans le monde, je pense même pas le pape, aurait pu se faire reconnaître dans la rue comme Michael Jordan. C'était fascinant. Puis je pense que ça a un peu d'influence sur ma réflexion parce que j'ai pu voir tout ce qu'il y avait dans l'aura, le gagnant, le winner qui était Michael Jordan. Mais évidemment, sans rien enlever à Tom Brady, parce que je ne sais pas si tu as vu, mais on disait que cette semaine, ou en fait, je devrais dire la semaine avant le Super Bowl, Brady textait tous ses coéquipiers à chaque soir en leur disant « We will win, nous allons gagner ». Tu sais, ça, c'est de la graine de leader, comme tu veux voir. Ouais. Et je pense qu'il a beaucoup influencé les jeunes Buccaneers, mais et c'est pour ça qu'il est dans la même discussion que Jordan et les
mais
autres.
Mais il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse là-dedans.
Et voilà, et voilà.
Il n'y a pas de bonne et de
mauvaise. Mais moi, Jordan, écoute, j'ai vraiment un faible pour lui. Je l'ai vu jouer toute sa carrière. Il m'a fait triper sur le basket, même à un point où, tu sais, je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont désintéressés du basket quand Jordan est parti. Ça n'arrivera pas avec Brady. Je veux dire, quand Tom Brady va prendre sa retraite dans 2, 3, 5 ans, les gens vont continuer à s'intéresser au football. C'est pas le même impact que Michael Jordan. Ça, c'est sûr et certain. Mais c'est tout ça. Puis je te dis, tu regarderas les statistiques du baseball de Jordan. C'est vraiment fascinant pour un gars de 30 ans qui n'avait jamais joué professionnellement, ce qu'il a pu mettre au tableau. Et Terry Francona a souvent dit que s'il avait eu une année de plus, je pense qu'il aurait eu au moins quelques apparitions dans le baseball majeur. Mais c'est ça. Comme on se disait, c'est une longue discussion qu'on pourrait avoir autour d'un breuvage, puis probablement qu'il n'y aurait pas de bonne réponse à la fin. Mais je pense qu'on peut quand même faire une liste qui va se limiter à peut-être 5 à 7 noms où il faudrait choisir parmi ces athlètes.
Juste pour finir avec Jordan, puis je veux te dire ce que Philippe Quentin et Ray Lalonde sont arrivés. Jordan, il faut dire qu'il a commencé dans le 2A aussi. Ça, c'est très important à mentionner parce qu'on l'a placé dans le 2A parce que pour des questions sécuritaires. Mais dans le 2A, c'est pas vraiment l'endroit pour suivre les ligues mineures où que les lanceurs sont les jeunes prospects sont. C'est là que se trouvent les meilleurs prospects aussi. Donc, c'était pas facile pour Jordan d'arriver dans le 2A. Là. Vraiment pas facile. Là.
Non, puis ton point est bon parce que souvent dans. Le 3A, c'est plus vieux, c'est des joueurs qui ont eu leur tasse de café puis qui essaient de tourner. Dans le 2A, tes meilleurs espoirs sont là, puis souvent, ils ne passeront pas par le 3A pour atteindre les majeurs. Donc, c'est pour ça que les chiffres sont fort intéressants. Puis, on voyait que plus la saison avançait à l'époque, je pense que c'était à Charlotte, puis plus ça avançait, plus on voyait qu'il commençait à prendre ses aides. Puis, on va s'entendre. Là. Il n'aurait pas frappé 300 dans les majeurs. Il n'aurait pas l'air fou dans les majeurs parce que là, tu tombes d'une coche vraiment, vraiment supérieure. Puis c'est quasi impossible à 30 ans de s'ajuster en arrivant. Mais tu sais, j'aurais été curieux. C'est un peu ce que Tim Tebow a essayé de faire à un certain point, mais qu'il n'a pas réussi avec les Mets. Mais dans le cas de Jordan, il y avait quand même une base de talent. Mais c'est sûr qu'il a profité quand même de certains privilèges parce qu'il avait 30 ans, parce que c'était Jordan. Puis comme tu as mentionné, il fallait qu'il joue dans le 2A parce que les organisations en dessous n'avaient pas les installations nécessaires pour accueillir le cirque qu'il tenait avec Michael.
On dit que Kyle Murray, le corps des Cards de l'Arizona, a le talent pour jouer au baseball. Et c'est un choix de première ronde, d'ailleurs.
Oui, mais c'est sûr. C'est toujours ça que je dis. Quand tu choix de première ronde, je ne peux pas me tromper, je pense que c'est 10e au total.
8e.
Je pense que le gars est 8e. Écoute, hey, c'est fascinant. Là, tu sais. Ça veut dire que le gars était excessivement talentueux. Et s'il n'y avait pas eu de carrière de football, probablement qu'il serait probablement sorti encore plus haut parce que les équipes n'auraient pas eu peur de le repêcher. Mais on n'aura probablement jamais la réponse à cette question.
Dans le cas de Tom Brady, c'est pas le plus grand athlète. C'est tout ce qui tourne autour. Parce que Tom Brady, c'est pas le gars qui a le plus grand bras. C'est pas un corps mobile. Par contre, tu l'as vu dans ses combines en 99. Tout le monde voit ça sur YouTube. Parce que c'était complètement ridicule. Là. Mais par contre, c'est son leadership. C'est incroyable. C'est tout ce qu'il y a autour de Tom Brady. C'est pour ça, que les comparaisons avec Joe Montana sont évidentes. Ray Lalonde et Philippe Quentin ont sorti le nom de Jesse Owens. Pour les gens qui ne savent pas c'est qui Jesse Owens, c'est le sprinteur, c'est le coureur qui aurait gagné 4 médailles d'or aux Jeux olympiques de Berlin en 1936. Écoute, c'est parce que c'est... faut comparer des pommes avec des pommes, là. Puis c'est sûr que tu mets le contexte, c'est un Afro-Américain. Les Noirs, il y avait tout l'esclavage et ainsi de suite. Tu t'en vas à Berlin devant le stade, devant Hitler. C'est sûr que c'est un exploit extraordinaire. Là. C'est faramineux. Mais il faut que tu compares des pommes avec des pommes. Je suis d'accord avec moi, François.
Bon, puis écoute, les époques, puis tu sais, je veux dire, des gars comme justement.
Jackie Robinson.
Comme tu viens de nommer.
Tu peux même Jackie Robinson.
Tu regardes, puis il y a une. Puis je veux dire, tu fais la liste et tu dis, écoute, que si au moins on avait, tu sais, des gens pour nous en parler, des puis on s'entend, ils font partie de la liste, mais je pense qu'il faut séparer ça. Tu l'as mentionné, les pommes avec des pommes, je pense qu'il faudrait séparer ça par tranche aussi. dans le cas des performances, parce que c'est tellement différent au niveau de la façon dont ça se passait, du nombre d'athlètes qu'il y avait, puis de toutes sortes de choses. Même à un certain point, Danny, je trouve ça dur des fois, tu sais, en sport, c'est dur de comparer, parce que tu sais, je te nommais 4 ou 5 noms tantôt, puis je te disais, on aurait peut-être quoi, 5, 7 noms qu'on mettrait dans la liste. Le nom qui me vient en tête, là, c'est Michael Phelps. Tu sais, Michael Phelps, il faudra en parler. Là, le gars qui a gagné des médailles d'or comme jamais d'autres. Ouais. Mais tu sais, parce que c'est un sport qu'on connaît un petit peu moins, parce que sa performance, c'est comme c'est une fois ou 4 ans qu'on le voyait. Si on n'est pas un amateur de natation, on a de la misère un peu à comparer. Ben, c'est la même chose avec les époques. Peu importe qui tu regardes dans ces années-là, ceux qui ont réussi des exploits tout simplement incroyables, je trouve ça trop, trop dur de comparer avec ce qui se passe aujourd'hui. Le sport a tellement changé. Ouais. Je pense qu'au niveau, si on comparait à athlétisme avec athlétisme, je sais pas, si Carl Lewis avait été clean, puis comparait avec les gens qui couraient dans les années, Usain Bolt, très bon exemple, dans les années 30, dans les années 40, là, on pourrait peut-être le faire, mais je trouve ça très difficile. Je comprends très bien la réponse, puis je suis exactement comme toi. Moi, j'adore Philippe Quentin et Éric Lalonde. Je trouve que ce sont deux des meilleurs gars de radio de sport qu'on a au Québec. Puis c'est des gars qui s'expriment bien, qui ont des bonnes idées. Je comprends très bien la réponse. Mais je trouve ça beaucoup trop dur de comparer ces gens-là.
OK. On va y aller maintenant avec d'autres informations dans le monde du sport que je voulais te faire commenter. D'abord, je veux te faire commenter un petit peu. On va parler de hockey. John Tortorella. Écoute, la chicane est déjà poignée avec Jake Allen. Pas Jake Allen, mais Patrick Laine. Moi, je trouve, écoute, quelque part, t'es pas ton directeur général quand t'as échangé Pierre-Luc Dubois, qui est un joueur pas de franchise, mais un excellent joueur. T'es le joueur le plus convoité dans la Ligue nationale. Comment tu trouves ça?
Je suis un peu partagé parce que j'ai souvent été un ardent défenseur de John Tortorella. Moi, je te comprends très bien que c'est un gars, ça doit être difficile de jouer pour lui. C'est pas un gars qui est facile à vivre. Mais c'est un gars qui a gagné. C'est un gars qui a gagné une Coupe Stanley. Puis c'est un gars qui a quand même une très, très bonne réputation comme gars de hockey. Sauf que là, je commence à trouver que ça devient de plus en plus dur de le défendre. Mmh. À un moment donné, il y a une limite. C'est combien de fois tu vois ça dans la Ligue nationale, dans une semaine, des vedettes qui se font bencher pendant une période et demie? C'est tellement rare que ça arrive. Puis là, on dirait qu'à chaque fois que ça arrive, c'est toujours au même endroit. Mmh. Mais là, puis ton point est bon par rapport à la relation que tu as avec ton DG. Mais moi, personnellement, à première vue, puis je sais que Pierre-Luc Dubois a une très belle valeur, mais tu sais, les Blue Jackets n'étaient pas perdants dans cette transaction-là avec Laine et Roslovic. Ce sont deux très bons joueurs de hockey. Sauf que là, quand on voit que c'est Laine à son tour qui se fait bencher en bon français, là, de ce que j'ai compris de l'histoire, c'est qu'il y a eu une discussion très, très animée avec un assistant-entraîneur. Puis Patrick Laine aurait manqué de respect à un des assistants-entraîneurs, puis c'est pour ça qu'on l'a laissé sur le banc. Et si tel est le cas, je ne sais pas comment ça s'est passé. Peut-être que John Tortorella a entièrement raison et que son équipe va très bien répondre à ce qui s'est passé. Mais c'est juste qu'à un moment donné, pour le DG, ça devient dur de se défendre. Puis on peut pas nous faire croire quand même. T'sais, dans un vestiaire de sport, on dit souvent c'est un tiers, un tiers, un tiers. Il y en a un tiers qui t'aime, il y en a un tiers qui t'aime pas. Puis c'est le tiers du milieu qui est important, qu'il faut que tu gardes quand même heureux. Mais j'ai de la misère à croire que présentement, dans le vestiaire des Blue Jackets, ça se passe comme ça, parce que à un certain moment donné, tu veux être fidèle, tu veux répondre aux demandes de ton entraîneur, mais quand c'est trop, quand la pression monte, quand il y a de la tension dans la chambre, ça peut certainement pas être bon pour les Blue Jackets de Colorado.
Ah non, regarde, puis c'est pas ça, tu sais ce que t'obtiens. Patrick Laine, Tortorella l'a vu jouer, tu sais que c'est pas un joueur qui va nécessairement être le meilleur avec la rondelle. Patrick Laine, c'est un marqueur. C'est un marqueur, c'est pas nécessairement le meilleur joueur défensif.
Et puis il a l'air paresseux quand tu le regardes. Ouais. Il patine avec son coup de patin. C'est pas un gars très bon défensivement. C'est pas un gars qui est très expressif sur le back check et les retours en zone défensive. Puis pour ça que moi, ma première réaction, ça a été ça. S'il décide de laisser Laine sur le banc pour des histoires comme ça, je veux dire, il jouera jamais à Columbus. Voilà. Il va être malheureux et comme une roche. Mais là, à un moment donné, quand tu lis l'histoire, tu dis bon, OK. S'il arrive, puis il est nouveau, puis en commençant, il manque de respect, puis il envoie promener un des entraîneurs. C'est peut-être une façon de dire c'est pas comme ça que ça fonctionne ici. Mais c'est parce que le problème que j'ai aussi, c'est qu'il faut à un moment donné que John Tortorella soit un peu plus ouvert avec les journalistes. Ça doit devenir très désagréable à un moment donné. Je sais pas si tu as déjà vu, John Tortorella est un maniaque des animaux. Okay. Moi, j'ai déjà vu John Tortorella, il va devenir comme un enfant, il sourit, il est de bonne humeur, il a l'air d'un grand-père que tu voudrais avoir, tellement qu'il a l'air gentil. Et là, tu le vois, soudainement, il s'en va en conférence de presse, première question qu'il fait pas son affaire, souvent c'est une question très légitime, Puis là, ben, il pète une coche, puis il s'en va, il finit pas sa conférence de presse. C'est des choses comme ça qui deviennent un peu agaçantes. Puis tu te demandes à un moment donné si ça lui fait pas plaisir aussi. Tu sais, il s'amuse un peu avec ça aussi. Il le fait à New York avec Larry Brooks pendant quelques années. Il y a eu des problèmes à Vancouver la seule année qu'il était là. Ça a toujours été un peu comme
un
ça.
Un genre de Pat Burns.
Ouais. Oui, ton point est bon, ça ressemble un petit peu à ça, mais tant que tu gagnes, habituellement, les gens vont te respecter, tu vas continuer à avoir un emploi, mais ça me donne l'impression, puis je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, que quand il va partir de Columbus, ça va peut-être être beaucoup plus difficile pour lui de trouver un autre emploi comme entraîneur-chef dans la NFL.
S'il s'adapte pas. Mike Keenan s'est adapté, Scotty Bowman se sont adaptés, il faut qu'il passe un autre appel. Je veux te parler des Penguins de Pittsburgh. Les Penguins, c'est toujours ça a toujours été ma deuxième équipe derrière le Canadien depuis Mario Lemieux. Ce n'était pas d'hier. Hein. Les Penguins de Pittsburgh ont nommé Ron Hextall et Brian Burke hier à la place de Jim Rutherford. Je regarde les Penguins, il y a des années qu'ils manquent de choix repêchage. Ils n'ont pas grand choix repêchage. Ils n'ont pas également une grande relève. Ron Hextall a fait quand même du bon boulot à Pittsburgh. J'ai l'impression qu'il va falloir, à un moment donné, qu'on laisse probablement... Moi, je comprends pas qu'Evgeny Malkin n'a pas été encore échangé. Ça fait au moins 2 ans que Malkin aurait dû être échangé. Tu sais, changer un petit peu la routine des Pingouins, passer en mode construction. C'est pas des belles années qui s'en viennent à Pittsburgh.
Non, certainement pas. Puis moi, ce que j'ai entendu, puis je pense que c'est la réalité, c'est que Jim Rutherford voulait échanger Christopher Le Temps.
Ouais.
Lui, il voulait l'exploser, le Big Three, puis je pense que c'était la décision à prendre. On lui a dit, non, c'est pas ça qu'on veut faire. Fait que j'ai une inquiétude, puis ce que tu as mentionné est tout à fait vrai par rapport aux Pingouins, qu'il n'y a absolument rien qui s'en vient en arrière pour qu'on ait de l'espoir pour les prochaines années. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on a engagé un directeur général âgé et un président des opérations, Brian Burke, encore plus âgé. Et ça donne le signal comme quoi on veut continuer à gagner avec les années qui nous restent. C'est comme si on s'était dit, ce qui reste de Le Temps, Malkin et Crosby, on va en profiter puis on essaie de gagner peut-être encore une coupe puis ensuite on verra. Mais moi, personnellement, tu as dit Malkin, je suis entièrement d'accord. Depuis une année ou deux, ça fait longtemps que je le dis, moi je l'aurais échangé au plus haut de sa valeur. Christopher Le Temps, n'importe quand, je veux dire. Puis j'adore Christopher Le Temps, une très belle carrière et tout ça, mais avec son contrat, avec les blessures, je veux dire que Christopher Le Temps n'a vraiment plus la valeur qu'il avait, mais t'es capable de le passer juste pour sauver son salaire. Je pense qu'il faut que tu le fasses. Et si t'es rendu là, Danny, je sais pas si...
Yager, il a remis Yager. Je t'emmenais avec la comparaison avec Yager. Ils l'ont échangé, les Pingouins.
Oui, mais là, après, si t'échanges Le Temps et Malkin, t'as pas le choix. Faut que tu t'assoies avec Crosby pour savoir... Je connais, tu sais, il faut pas que tu te mettes la ville à dos. Là. On s'assoit avec Sidney Crosby. C'est à toi la décision. Est-ce que tu veux reconstruire avec nos jeunes ou tu préfères être échangé dans une autre organisation? Je pense que si on échange Malkin et Le Temps, on va être rendu là à prendre ces décisions-là. Donc, moi, je suis entièrement d'accord. Puis, sincèrement, je pense que les Pingouins, depuis 2 ans, auraient dû reconstruire. Mais à chaque fois, on préférait interchanger les pièces du casse-tête et amener des joueurs différents, mais qui se ressemblent un peu tous. Pour se dire, à un moment donné, on va trouver quelqu'un qui peut jouer avec Crosby, qui va devenir presque une vedette, puis qui va jouer avec Malkin, qui va marquer 30 buts. Mais c'est pas à chaque année qu'on pouvait le faire. Puis là, le bateau prend l'eau parce que les gars ont vieilli. La défensive est poreuse. Puis on se rend compte, finalement, peut-être que Tristan Jarry, peut-être pas le gardien qu'on avait espéré. Puis on a des gros, gros, gros problèmes à faire.
C'est parce que, tu sais, si t'es Shane Malkin, c'est parce que c'est un peu comparable avec Joe Malkin, Crosby, c'est comparable à Lemieux à Yager. Si t'es changé Yager, il y a quelques années, tu peux le faire avec Malkin aussi, à mon idée.
Aucun doute, mais t'auras peut-être pas ce que t'espères, parce que je pense que la valeur marchande...
Il y a 2 ans, peut-être. Il y a 2 ans, sûrement.
Oui, le seul problème, ça reste aussi le salaire, plafond salarial, c'est pas évident trop, puis il faut que Malkin, je pense qu'il y a encore du bon hockey à donner, mais ce sera pas le Malkin qu'on a connu il y a 3 ou 4 ans.
Dernier point que je veux t'en dire, c'est Jay, écoute... Font rire les jeunes de Montréal. Je suis pas un grand fan de Carey Price. Là. J'ai toujours trouvé que c'était un gardien de but surévalué. S'il serait avec les Islanders de New York, c'est probablement un bon gardien de but, mais pas plus que ça. Par contre, là, c'est parce que Jake Allen, les gens, tu vois ça, je sais pas si c'est sur Facebook, Twitter, les gens commencent à comparer Jake Allen, puis ils disent j'aime mieux Jake Allen que Carey Price, mais c'est parce que. Il y a des gardiens de but qui sont capables d'être numéro 1. Il y a des gardiens de but qui sont capables juste d'être 1B. et entre 2 et 1, tu sais, Brian Hayward, je pense souvent à la comparaison de Brian Hayward, il n'a jamais été capable d'être un grand gardien de but, là. Il a toujours été un bon gardien de but derrière Patrick Roy. C'est la même, ça semble être la même affaire avec Jake Allen, là, tu sais. Et là, on demande, il y a des gens qui disent pourquoi, et même les médias embarquent là-dedans. Dans 2 semaines, on devra se poser la question, Allen ou Price. Mais tu sais, c'est Montréal, c'est le Canadien. C'est comme le monde qui voyait déjà la Coupe Stanley à Montréal. C'est ça. Comment est-ce que tu trouves ça, François?
Soyons honnêtes. Si quelqu'un se pose cette question-là, là, je veux dire, sincèrement, il n'a pas suivi le hockey dans les dernières années. J'ai beaucoup de respect pour Jake Allen. Puis honnêtement, même à un certain point, il me fait mentir parce que moi, j'étais pas d'accord à investir autant d'argent pour un gardien substitut. Je trouvais toujours qu'on faisait une grosse histoire avec ça. Mais jusqu'ici, écoute, il me fait mentir parce qu'il a été excellent. Mais l'histoire de la carrière de Jake Allen, pour qui j'ai beaucoup de respect, c'est des problèmes en série. Ça a toujours été, avec les Blues de Saint-Louis, ça a été épouvantable, les performances en série. Ça a été un bon gardien de saison régulière. Puis je pense que ta description était bonne à savoir, est-ce que c'est un deuxième ou un A, un B, difficile à dire, mais c'est pas un numéro un. Ça, c'est pas un numéro un. Il a eu sa chance pendant plusieurs années. Il a été excellent jusqu'ici. Mais il n'y a pas de controverse. Puis même si Price donnait un but plus par match, il n'y aura pas de controverse, c'est sûr et certain. Ce qu'on voulait, puis là, présentement, ça se déroule à merveille, c'est de donner quand même beaucoup plus de travail aux substituts qui nous donnent des performances, qui nous permettent de gagner et qui, surtout, nous permettent de reposer Price pour qu'il soit prêt quelque part au mois de mai quand les séries vont commencer.
Exactement.
Donc,
ça.
Si le plan fonctionne bien, mais je pense pas qu'il va y avoir de controverse. Puis, je vois pas de malheur à Jake. Il est très bon. Puis même, c'est du coup, Danny, je me disais, à jouer comme ça, il va peut-être intéresser la formation de Seattle pour le repêchage de l'expansion. C'est un gardien de but qui pourrait
être. Tu ris, mais moi, là, je le passe. Si Seattle sont prêts à prendre Price, c'est le temps.
C'est un très bon point parce que mais je pense que si aujourd'hui, là, tu magasines Carey Price, c'est encore capable d'avoir une certaine valeur. Je pense que oui, pour une année ou deux encore. Mais après ça, son contrat, tu seras plus capable de le passer. Mais tu sais, on s'entend que ça passerait pas. Les Montréalais, les partisans du Canadien accepteraient pas qu'on le laisse aller pour l'expansion. Mais il y a un 10 millions là-dedans qui dit, hey, ce serait assez incroyable qu'on puisse passer le contrat d'un gars qui va aller jusqu'à je sais pas quel âge avec son 10 millions par année, 10 millions et demi. Ce serait un pensée du bien, mais on sait très bien que ça arrivera pas. Mais si le Canadien performe pas d'ici un an ou deux, est-ce que tu vas être capable de l'échanger puis qu'une équipe va accepter autant d'argent? Un peu la même réflexion avec chez Weber. Le Weber, c'est un peu la même chose avec autant d'argent jusqu'à 40-41 ans. C'est ce qui est difficile aujourd'hui avec le plafond salarial et les longs contrats qu'on a donné une certaine époque.
OK. François, toujours intéressant de te parler. On va te reparler une couple de semaines.
Parfait, merci Danny.
Notre ami François Paquet.